Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour Geneviève.
Bon, j'ai envie de dire qu'on a des personnages qui sont redondants dans la chronique judiciaire. Oui, des gens dont on parle un peu trop selon la période dans laquelle on est plongé. François Malega en fait partie. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. Là, il refuse obstinément de se plier à la loi. Si tant est que sa remise en liberté, ben ça lui a été refusé, caution refusée pour cet homme, celui qui allait manifester là, pour ceux peut-être qui ont oublié de qui il s'agissait près des écoles, près des établissements de santé. Donc, il reste détenu jusqu'à la fin des procédures judiciaires, Nicole, et j'ai envie de te dire, ma première pensée, ça a été parce qu'il refuse de se plier, c'est quand même nous, les contribuables, qui devrons éponger la facture de sa détention. Moi, ça me rentre pas dans la tête.
Ben non, c'est parce que moi, c'est le contraire, Geneviève, parce que je te dirais que payer la facture pour le garder en dedans ou payer la facture pour aller le chercher, le ramener, l'arrêter.
Ah oui, parce qu'il arrête pas, c'est vrai, parce que lui, il veut rien entendre.
Jamais. Alors, si on comptabilise tout ça, je sais pas si on fait beaucoup de...
Tu vas nous calculer ça ce soir.
Oui, tu demanderas à quelqu'un.
Tu demanderas à mon chum qui nous calcule ça.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai envie de dire enfin, pas parce que la présomption d'innocence ne prévaut pas dans notre système, puis j'y crois pas, ça n'a pas rapport, là. Ce n'est pas ça. Mais là, c'est quelqu'un qui n'y croit pas, premièrement, et que je pense qu'il fait effectivement perdre du temps précieux. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Du temps précieux aux tribunaux, du temps précieux aux agents de sécurité, du temps précieux à tout le monde qui en a... Tu sais, sont tannés, les gens, là, de la pandémie, autant que n'importe qui. Mais là, c'est parce que le discours est... Tu sais, en fait, il y a même une cassette, pèse dessus, puis c'est toujours le même discours. Alors, je pense que le juge, il était temps là, que quelqu'un dise, écoutez, on vous a donné toutes les chances. Puis c'est pas parce qu'on y en a pas donné, c'est pas vrai, là. On y a donné toutes les chances, même au point où ça devenait... Il y a certaines personnes que je trouvais qui s'impatientaient, me disaient, mais voyons, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Que donc, mais ils ne croient pas au système, donc il n'y a pas de plan de rien, clairement.
Non, il n'y a rien. Mais j'ai envie de te dire que j'ai vérifié dernièrement, par curiosité dans mon district, j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça, moi, en 2000. Je dirais même en 2000, ça fait 21 ans. Mm. Et on me dit qu'il existe encore, puis il s'oppose encore aux interdictions au moment où j'étais là, et encore, pour les mêmes raisons, il est tout le temps en prison, ça fait 20 ans, à peu près, là. Alors, bonne chance au système judiciaire. C'est
peut-être que Lionel Carman pourrait y parler.
Ouais, peut-être, mais honnêtement, il y a des gens qui sont obsédés par une... C'est ce que le juge dit ici, là. Il y a des obsessions, cette personne-là.
Oui.
Ses droits fondamentaux, ça va, mais il y a des obsessions. Puis en ce moment, là, on ne peut pas se permettre, là, dans ces circonstances, de perdre du temps, tout le temps, pour les mêmes raisons, parce que... Il avise qu'il va les briser le lendemain. Alors, on peut pas, là. Ça serait ridicule.
Mais tu vois, tu soulèves un point qui est intéressant sur les gens qui contestent comme un mode de vie, là. C'est-à-dire que ça devient un système de croyance sur lequel est orientée toute leur existence. Puis beaucoup dans le mouvement anti-vaccin, là, ce que les experts en radicalisation ou sur ces questions-là ont noté, c'est que souvent, les personnes qui ont pris part à ces mouvements-là anti-vax pendant la pandémie faisaient déjà partie de d'autres groupes d'opposition au gouvernement. Donc, c'est un terreau là, où tout ce beau monde-là se mélange et ça devient vraiment là, une façon de vivre. Et tu l'exprimes bien là, avec ta personne en 2020. François Malega a l'air de faire partie de cette cohorte lui aussi. Triste histoire, Nicole, un adepte de la vitesse au volant qui est en retard au travail a commis une erreur d'inattention au volant. Il a tué une mère de famille.
Ça, là, c'est absolument terrible. Négligence criminelle causant la mort. Mm. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'est tellement, tellement triste. Ben, c'est toujours triste, ce genre de dossier-là. Mais la photo de cette dame-là, la luminosité qu'on voyait sur son visage, c'est Je suis tellement triste pour toute sa famille, ses enfants. On a enlevé une maman. Puis pour... parce qu'on est en retard au travail, puis qu'on s'est tourné pour regarder quelque chose, puis qu'on a fait un mouvement X, puis qu'on n'était pas attentif, qu'on y a rentré dedans avec une camionnette. Je sais pas quel genre de camionnette, mais c'est presque 6 000 livres d'une bombe roulante qui rentre dedans quelqu'un.
Oui, puis c'est cet homme-là, parce que ça se passait dans le coin de Saint-Jean sur Richelieu, Frédéric Lange, avait déjà été arrêté là, pour avoir roulé à une vitesse excessive. Là. Je pense à 4 reprises.
À 4 reprises, puis si je ne me trompe pas, il y a une infraction pour laquelle il a été arrêté aussi après cet accident mortel-là. Si je vois là, qu'il est souvenu...
Deux mois après la collision.
Deux mois. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? C'est pas assez d'avoir... Peu importe ce qui arrive. Oui, j'en conviens qu'il va y avoir un procès, puis on verra. Puis il y a peut-être des circonstances, puis une présomption d'innocence. Je comprends tout ça encore, je répète et je répète.
Non, mais si t'allais vite, t'allais vite, là, je veux bien croire. Là.
Ben, je comprends. Mais tout ça pour dire, allez vite, là. Peut-être que là, deux mois après, on aurait... Il me semble que c'est inconcevable. Fait, dans les circonstances, je trouve ça... c'est tellement douloureux de lire cette histoire-là, puis de voir qu'en plus, on n'a pas eu vraiment de dissuasion spécifique. Là. Cette personne-là a quand même eu un billet de vitesse deux mois après.
J'ai envie de te dire que ce sont les effets tangibles des films rapides et dangereux. Là, on en voit souvent des gens. Je dis pas que c'est ça qui a influencé cet homme-là, mais ça, c'est rapide et dangereux dans la vraie vie. C'est épouvantable. Un détenu qui aurait agressé deux agents correctionnels à la prison Talbot de Sherbrooke qui pourrait être accusé.
Oui, ben c'est qui se passe là dans à l'intérieur des murs, peu importe ce qui arrive. C'est d'abord, je salue pour les avoir rencontrés dans toutes circonstances des agents correctionnels à travers la province. Et ça prend beaucoup de, tu sais, ils font un travail dangereux là, on s'entend là. Ils font un travail dangereux, puis c'est pas facile d'être agent correctionnel à l'intérieur des murs en pandémie. On va ajouter la pandémie là.
Ben oui.
Là-dessus là, c'est vraiment pas facile. Puis oui, il y a des armes, un arme artisanale qui était, puis même deux, que le détenu, oui, ça, c'est un détenu qui venait du pénitencier fédéral, et oui, ça peut arriver. Lorsqu'on attend, par exemple, en attente de procès ou en attente de procédure, quand il y a un centre de détention pas loin, moi, je me souviens très bien, dans l'affaire Turcotte à Saint-Jérôme, même si il était détenu en matière fédérale, souvent, on allait là parce que au centre de détention Saint-Jérôme, parce que c'était à côté du palais de justice. On peut pas faire des mille. Il y en a d'autres, c'est un exemple comme ça, mais il y en a d'autres. C'est plein de... Et s'il y a des infractions qui se commettent, des voies de fait, des tentatives de voies de fait, passer de la drogue, peu importe les accusations, on peut lire le code criminel au complet, et ça va s'appliquer, évidemment, suite à une enquête de la Sûreté du Québec, en bonne et due forme, suite à un dépôt de plainte, évidemment, et à la que le DPCP décide de déposer des accusations. Ça va suivre son cours, mais je pense qu'il faut le noter parce que ces gens-là, comme je dis, quand ils se font attaquer, ils sont souvent sont chanceux. Là, ici, ils ont été chanceux apparemment parce que c'est déplorable de voir que ces événements-là auraient pu avoir des conséquences tellement graves. Oui. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs dans des...
Oui, mais tu fais bien de le souligner. Là. Il y a plusieurs personnes qui travaillent en milieu correctionnel qui sonnent l'alarme depuis déjà quelques années là, sur les conditions de détention qui, si on veut, font se dégrader le climat psychologique à l'intérieur des prisons. La pandémie qui vient se mélanger à tout ça. L'isolement dans l'isolement. Là, Nicole, tu comprends ce que je veux dire?
Oui,
là, à un moment donné, ça fait une ambiance qui est très, très explosive. Et là, les agents correctionnels qui sont obligés de composer avec tout ça, les détenus. C'est pas évident tout ça. Merci Nicole, à demain.
À demain, bye bye.